Aujourd'hui, on vous propose une prédication à deux voix et à deux mains. Merci Myriam. Les béatitudes, c'est ce texte si intense, si dense et si poétique. Et en fait, on pourrait vraiment consacrer une prédication entière, voire même plus, à chacune de ces béatitudes. Mais aujourd'hui, on a choisi d'être plutôt attentif au cheminement progressif auquel elle nous invite. Un cheminement vers un bonheur contre-culturel et de plus en plus profond. Puis on a choisi aussi les béatitudes parce que on trouve qu'elles sont vraiment en lien avec le thème du temps pour la création cette année, la paix, parce que à travers ce cheminement, elle nous invite à devenir des artisans de paix au milieu des persécutions de notre monde si complexe. Et les béatitudes peuvent nous parler aujourd'hui face à toutes les questions d'injustice sociale et climatique. On peut y retrouver par exemple nos sentiments d'angoisse devant le dérèglement climatique ou une alternative à notre société de consommation. Alors dans les béatitudes chez Matthieu, Jésus il s'adresse à la foule, c'est-à-dire à chaque homme, chaque femme, quelles que soient ses croyances, quelle que soit son histoire. Les béatitudes, elles s'adressent à chacun et chacune de nous, de façon individuelle, mais aussi et surtout de façon collective. Et ce n'est pas une liste d'obligations, mais c'est un état d'esprit. Elle nous invite à entrer dans une spiritualité joyeuse. Et je vais inviter la personne qui a la première béatitude à nous la lire maintenant. Merci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors on commence tout de suite de façon radicale. Et le premier mot-clé ici, c'est esprit. Les béatitudes, c'est en état d'esprit. Et en état d'esprit lié à la pauvreté. Mais des pauvres en esprit, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment pas la justification d'une précarité matérielle qui est toujours une injustice. Ce n'est pas non plus une invitation à laisser de côté notre intelligence pour devenir des pauvres d'esprit. Les pauvres en esprit, ce sont les humbles de cœur, ceux qui ont choisi de se désencombrer intérieurement de tout ce qui les empêche d'aimer, nos jalousies, nos rancœurs, nos critiques. Et c'est évidemment pas un chemin facile dans un monde où règne plutôt l'esprit de possession et le culte du moi. Personnellement, j'apprends toujours avec un peu de douleur à me désencombrer, par exemple, de mon besoin de reconnaissance ou de mes impatiences. Mais en même temps, c'est un chemin de bonheur parce que ce désencombrement nous ouvre à un autre royaume, une autre façon d'entrer en relation avec Dieu et avec les autres, le royaume des cieux. Et je trouve que ce bonheur des pauvres en esprit, il est très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété heureuse, et dont j'ai trouvé cette définition. C'est une réduction volontaire de la consommation matérielle pour vivre une existence plus riche en relations humaines. Et cette sobriété heureuse, il y a mille et une façons de la vivre, mais il y a plein d'initiatives qui existent tout près de chez nous. Et par exemple, au printemps dernier, différents collectifs de Nancy se sont mis ensemble pour proposer de vivre la sobriété numérique à travers une semaine sans smartphone, avec toutes sortes d'activités riches en réflexion et en lien d'humanité. J'invite la personne qui a la deuxième béatitude à nous la lire. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui, les béatitudes, elles parlent de nos sentiments profonds et de nos larmes. Et combien de personnes pleurent aujourd'hui, bien sûr à cause des guerres combien atroces, mais aussi à cause d'événements climatiques dévastateurs. Et je pense par exemple aux inondations qui ont eu lieu au Texas cet été, parce que j'ai une amie qui vit là-bas et qui m'a dit que tout le monde autour d'elle connaissait au moins une personne qui pleurait la mort d'un proche et souvent un enfant. Alors comment on peut être heureux dans de pareilles circonstances? Mais en fait, les mots grecs et hébreux qui traversent la Bible et qu'on traduit souvent par « heureux » en français peuvent aussi se traduire par « aller »,« courage ». Les béatitudes, c'est « en bonheur »,« en marche ». Et encore une fois, ce n'est pas un chemin facile, parce que face à la douleur du monde, on préférerait parfois plutôt fermer les yeux de peur d'être submergé. Mais qui ne pleure pas, ne peut pas non plus être consolé. Et c'est tout le chemin des psaumes dans la Bible, ces poèmes qui commencent souvent par des pleurs et des désespoirs assumés et qui nous font passer des larmes à la consommation. Alors dans ce... À la consolation, pardon, oui, bien, lapsus. Alors dans ce même esprit, pour passer des larmes à la consolation, je voulais juste mentionner une initiative de l'Association chrétienne de préservation de l'environnement à Rocha, avec laquelle notre église est en relation. Elle propose en fait tous les jours une prière pour la création, et je trouve que c'est vraiment une belle façon à la fois de pleurer et d'être consolée de façon collective. J'invite la personne qui a la troisième béatitude à nous la lire.
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors les doux, ils sont en fait très proches des pauvres en esprit, des humbles de cœur de la première béatitude. Et encore une fois, pour parler un peu d'hébreu et de grec, au fait, doux et pauvre, c'est deux mots différents en grec que Matthieu emploie dans ses béatitudes, mais ils traduisent en fait un seul mot hébreu. Et ce mot, c'est anawim. Anawim, ça veut dire littéralement ceux qui sont courbés, les affligés. Et on est très proche ici, évidemment, aussi de ceux qui pleurent de la deuxième béatitude. Les doux, ce sont ceux qui, à la fois, se désencombrent d'eux-mêmes et peuvent pleurer avec les autres. Et cette troisième béatitude, c'est en fait une reprise d'un psaume, le psaume 37, qui dit que les pauvres posséderont le pays. Une autre façon de dire que les doux hériteront la terre. Alors encore une fois, c'est... contre-culturel dans un monde où la terre est plutôt possédée par ceux qui font passer leur propre intérêt avant l'intérêt collectif, et on le voit dernièrement de façon cruelle pour toutes les questions de justice sociale et climatique. Mais en même temps, une autre logique habite déjà cette terre, une logique de douceur et de non-violence qu'on peut retrouver dans les associations, les collectifs, les églises bien sûr. Je pense par exemple à toutes les zones de gratuité, comme il y en a une qui s'est vécue hier dans cette église, et merci à tous ceux qui y ont œuvré. Je pense aussi à deux associations dans lesquelles sont engagées des personnes de notre église, Emplette et Cagette, qui met en lien des producteurs locaux et des personnes en situation de précarité, et Respérance, qui œuvre dans des quartiers de Vendeuvre et de Jarville auprès d'enfants et d'adolescents, principalement d'origine musulmane. Alors bien sûr, cette logique de douceur, elle n'est pas toujours parfaitement présente, même dans nos associations, nos églises, mais l'espérance de cette béatitude, c'est qu'un jour, c'est elle qui animera toute la terre. Alors, je vais inviter la personne qui a la quatrième béatitude à nous la lire. Et je laisse la parole à Élisée.
Avec Christelle, on voulait vous inviter à ce... cheminement au travers des béatitudes. Et donc, vous avez vu ce lien, ce fil conducteur entre les trois premières béatitudes qui permet de les connecter les unes avec les autres. Et j'ai bien aimé la phrase où tu disais, Christelle, le doux, c'est-à-dire la troisième béatitude, c'est celui qui se désencombre, c'est-à-dire la première béatitude, et qui pleure avec les autres, c'est-à-dire la deuxième. Et je vous invite maintenant à parcourir les trois suivantes et à en voir quel est le fil conducteur. Donc on a terminé sur ces paroles de Jésus. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Autrement dit, Christelle l'a dit, les personnes qui vont conquérir le monde, ce ne sont pas celles auxquelles on s'imagine. En tout cas, pas celles qui ont le pouvoir. Est-ce que Jésus ne serait pas un peu révolutionnaire, là ? Probablement, hein, puisque je l'ai dit qu'il y a cette forme d'inversion des choses. Et alors on peut se dire, qui va prendre la tête de ce mouvement révolutionnaire ? Et bien dans la béatitude suivante, Jésus nous explique que ce n'est pas ceux qui sont assoiffés de richesse, de pouvoir, d'influence, mais c'est ceux qui sont assoiffés de justice. Faim et soif de justice. C'est un drôle de projet, et peut-être que pour nous, on se dit, bon, c'est normal, à l'époque, ils pensaient comme ça. Ben, en fait, en réalité, en regardant quelques commentaires, en fait, je me suis rendu compte que non, ils ne pensaient pas comme ça, et qu'en fait, c'était bizarre aussi, inhabituel, d'associer ces deux mots, faim et soif, et la justice. Donc, même dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette faim et cette soif, ce sont des besoins profonds qui nous mettent en marche, comme l'a dit Christelle. Et on peut faire référence tout simplement au fait que ce soit au travers de l'histoire de l'humanité, la plupart des mises en marche, des migrations, ont été fortement influencées par la recherche, par la faim et par la soif en fait, par la recherche de nourriture. Ça c'était à l'époque, les migrations de l'homme moderne, mais aujourd'hui encore, il y a des populations qui se déplacent pour répondre à des besoins. Des réfugiés climatiques, des réfugiés économiques, pour différentes raisons. Les habitants de Gaza qui fuient la guerre, mais qui fuient aussi la famine. La faim et la soif nous mettent en marche. Et je crois que c'est là l'invitation de Jésus, c'est de nous lancer dans cette quête profonde et décisive qui va orienter notre vie de tous les jours. Peut-être qu'on n'a pas une marche physique sur le plan de « il faut aller d'un point A à un point B », mais je crois que cette démarche de vivre au quotidien la radicalité des béatitudes, elle nous concerne tous et toutes. Et d'ailleurs, les béatitudes ne disent pas autre chose, en fait. On a dit « heureux celui qui a transformer un manque en une quête à long terme. » Il y a un parallèle dans l'évangile de Luc vis-à-vis des béatitudes, et Luc, en fait, il fait le contraste. C'est-à-dire qu'il dit « heureux », mais après, il dit « malheureux ». Et par exemple, dans cette béatitude-là, il mentionne le fait, il dit « heureux si vous avez faim, mais malheureux si vous n'avez plus faim de rien ». En fait, malheureux si plus rien ne vous met en marche. C'est un peu comme s'il disait « malheur à toi si tu penses que ta quête de satisfaction et de justice, ça s'arrête juste à ton petit monde. » Moi, juste sans m'ouvrir à l'extérieur. Et je crois que c'est ce que Christelle nous a rappelé aussi, l'invitation de Jésus, c'est un décentrement de soi. C'est d'ouvrir les yeux et de se tourner vers l'extérieur, de regarder autour de soi et de ne pas penser que Dieu est uniquement là pour gérer mes petits problèmes. Et finalement, si on parle des autres, avoir faim et soif de justice, c'est être attentif à ces situations-là où nos relations sont défaillantes parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait et que même avec toute notre bonne volonté, on peut blesser. On fait les choses de manière imparfaite. Pour le dire un peu autrement, la justice pour Jésus, ce n'est pas une question de tribunal. Avant tout, ça se joue à la maison, dans les relations, au travail, à l'école. Ça se joue entre les communautés. Ça se joue sur les réseaux sociaux. Ça se joue entre les nations du monde. Alors peut-être qu'il y a des choses où vous dites, moi j'ai pas grand-chose à voir, mais il y a des endroits où on a de quoi faire et il y a du boulot. Les injustices de notre monde, elles sont vraiment diverses. Il y a des injustices individuelles, sociales, familiales, économiques, on en a parlé. Et je me dis que certes, ça donne un peu le vertige, mais en fait, en réalité, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les gens qui ont faim et soif de justice. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une cause qui va nous interpeller, nous faire mettre en mouvement, nous faire dire « mais là, j'ai envie de m'investir dans une association, dans un organisme, parrainer quelqu'un ou faire différentes manières, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour donner la parole à des personnes qui sont sans voix, que ce soit pour faire apparaître ou maintenir la vérité, que ce soit pour faire jouer des contre-pouvoirs. » Et mon invitation ce matin, c'est, si vous êtes déjà engagé dans cette marche-là, bah continuez, et que le Seigneur vous bénisse. Mais si ce n'est pas encore le cas, pourquoi pas vous choisir une cause qui œuvre pour plus de justice. Ça peut être local, ça peut être juste à côté de chez vous, dans nos villes, dans nos quartiers, et plus largement après, dans nos pays et à l'international. Et Christelle en a évoqué certaines, Emplette et Cagette, Respérance, et bien d'autres encore. Est-ce que la personne qui a la diapositive, la béatitude suivante peut la lire ? Merci. S'il y a un terme qui fait vraiment très spirituel dans la liste des béatitudes, c'est celui-là. Je pense qu'à mon avis, c'est celui-là. Autant les autres, voilà, c'est vraiment un mot qu'on pourrait presque un peu restreindre à l'usage religieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans une discussion avec un collègue, waouh, ce gars, il est vraiment compatissant. En fait, non, c'est vraiment un registre un peu particulier. Certains le traduisent aussi « miséricordieux » et c'est tiré d'une racine dont on a en français le mot « pitié ». Là aussi, on ne peut pas forcément dire qu'aujourd'hui, ce soit un terme qui soit très moderne. En tout cas, il est plutôt péjoratif aujourd'hui. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut le comprendre ? C'est quoi la réalité d'aujourd'hui qui renvoie à ce que Jésus veut dire à l'époque ? Je pense qu'il faut se mettre en situation et juste prendre en arrière. On est face à situation d'injustice. Et quand on est dans des situations d'injustice, en fait, quel est le récit, quelle est la solution que nous propose le récit commun ? C'est-à-dire, à quelle motivation est-ce qu'on fait appel aujourd'hui pour se mettre en mouvement ? Qu'est-ce qu'on invoque comme émotion ? La colère. J'en ai pris quelques-uns, là, c'est... Parents en colère. Sapeurs-pompiers en colère. Et il y a plein de situations dans lesquelles il y a des injustices. Et il y a plein de situations pour lesquelles c'est important de ne pas accepter les choses et de se mettre en mouvement. La colère comme un levier d'action face à des situations d'injustice. Et parfois, certains peuvent même dire « Mais attends, si tu m'enlèves ma colère, qu'est-ce qui me reste pour agir ?» C'est ça qui me motive, en fait. C'est ça qui me pousse à refuser les inégalités, à refuser les injustices. Mais en fait, dans ce raisonnement-là, il y a une manière de voir les choses qui est en fait binaire. Parce qu'on se dit, soit je me mets en colère, soit je me résigne et j'accepte la situation. Et je crois que dans cette cinquième béatitude, Jésus nous propose une troisième voie. Est-ce que tu as essayé l'amour ? L'amour comme motivation numéro un pour faire vibrer ta soif et ta faim de justice. Et là, vous voyez tout de suite un peu le problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on va dire « Ah, l'amour, c'est un sentiment, c'est émotionnel, c'est un peu à l'œil de rose, en fait, c'est un idéaliste. » Ou alors c'est sentimental, c'était un peu fleur bleue, quoi. Et je crois que c'est là où Jésus, dans cette béatitude, cette fameuse cinquième béatitude, il fait le lien entre ce besoin de justice et la manière dont on va le mettre en œuvre. Parce qu'il parle, et en fait, le mot en question en fait, fait référence à ça, il parle d'un amour compassionnel. C'est le mot. Dans d'autres passages, par exemple là, dans Exode 34, il est dit « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » À cet endroit-là, il y a deux fois le mot « amour ». Est-ce que vous arriverez à le trouver ? Je vous aide. Il y en a un qui est facile, hein, mais il y a « bonté » aussi. Et ce mot-là, en fait, il peut être traduit de différentes manières. Compassion, miséricorde, amour, bonté. Cette manière, cette attitude de ne pas juste résumer l'amour à quelque chose de fleur bleue, quelque chose de lui il est un peu particulier, il est un peu spécial. Mais un amour, c'est cette compassion mise en action. L'hébreu l'associe avec les entrailles. Et il y a plusieurs passages, notamment dans le Nouveau Testament, en fait, parce que dans la culture juive de l'époque, en fait, on dit des entrailles de miséricorde. Aujourd'hui, on dirait « je suis ému aux tripes ». Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que si tu veux militer pour la justice dans ce monde, ton premier levier, ta première motivation, c'est de le faire avec un élan de compassion, ouvert, à l'écoute de l'autre, une attitude qui dit « je n'ai pas les réponses à tout ». Mais j'ai besoin de me laisser déplacer dans mes convictions, j'ai besoin de recevoir de la grâce, mais j'ai aussi besoin d'en donner. Et face à ces situations d'injustice, du coup, on ne vient pas dans une situation où on va être dans une posture de juge, qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais dans un esprit d'ouverture, de compassion et de bienveillance vis-à-vis des victimes et des personnes qui souffrent. Comment est-ce qu'on peut être du côté de ceux qui souffrent et qui sont rejetés, plutôt que d'être dans une attitude où on prend la place du juge? Et Christelle l'a dit, ce n'est pas qu'une attitude individuelle. Et j'ai essayé de m'imaginer un peu, j'ai lu un commentaire qui disait « Comment est-ce que collectivement on crée des lieux de miséricorde ?» Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ça. Des lieux où on vit la compassion et la miséricorde, c'est-à-dire le droit à l'erreur, le fait de s'accepter, de pouvoir partager nos différences. Jésus, il a parlé de miséricorde et de compassion à des moments où on lui reprochait de ne pas fréquenter les bonnes personnes, où il était avec des personnes de l'extérieur. Ou alors, il en a parlé aussi au moment où ses disciples ne suivaient pas les règles religieuses. Je crois que la dynamique de la miséricorde, c'est de s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à d'autres milieux, à d'autres manières de faire, et d'aller à la rencontre les uns des autres. Et mon interpellation, c'est de me poser la question, mais dans ma vie, dans mon agenda, où est-ce que je peux m'ouvrir et comprendre celui qui n'est pas comme moi? En fait, est-ce que j'ai de la place dans ma vie pour faire de la place aux autres? Je vous invite à lire celui qui a la sixième béatitude. Merci. Donc, on reprend notre processus. Après avoir réfléchi à ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait marcher, donc là, on est sur le bas du corps. Après nous être fait déplacer dans nos tripes par la compassion qui nous met en mouvement, on en arrive au cheminement où on est au cœur. On est monté petit à petit progressivement dans notre corps. C'est l'imagerie, on pourrait dire, juive, en fait. C'est une manière de situer les choses dans le corps. C'est un peu comme si on disait on arrive au cœur de l'intimité d'une personne, dans un cœur à cœur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette béatitude-là, c'est probablement la plus idéaliste, la plus inatteignable. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on se l'approprie, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Et peut-être deux choses pour préciser un petit peu. La première, c'est que quand Jésus parle de pureté, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il l'associe au cœur. Ça veut dire que toutes les puretés qu'on pourrait qualifier de rituelles, de superficielles, de religieuses, en fait, pour lui, ça n'a pas sa place. Et si c'est juste l'idée de paraître pur, alors Jésus, il critique ce genre d'attitude-là. Parce qu'il veut il veut quelque chose qui se passe dans le cœur, dans l'intimité. Mais alors à quoi est-ce qu'il fait référence ? Ben, le deuxième point, je pense que c'est que quand on parle de pureté, souvent en français, et ça nous joue un peu des tours, hein, on pense à la perfection, sans défaut. Pur, sans défaut, une moralité parfaite, le meilleur chrétien, je fais des bonnes actions et tout ça. Et en fait, ici, il y a probablement une nuance qui fait plutôt référence à la notion de pureté, c'est-à-dire sans mélange. Par exemple, quand je bois de l'eau pure. Pure, ça veut dire qu'elle n'est pas coupée avec du jus, avec du sirop. C'est de l'eau pure. Ou alors, quand je porte un pull 100% en laine, il est pure laine. Voilà. Et du coup, on pourrait traduire l'interpellation de Jésus par la question « Est-ce que ton cœur, il est un ?» Ou est-ce qu'il est tiraillé par des volontés multiples, par des motivations multiples ? Et je me fais aller dans cette direction, puis dans une autre, puis dans encore une autre. Je crois qu'en fait, c'est un appel à la simplicité. Et ça rejoint ce que Christelle nous disait sur le désencombrement de nos vies. Ces béatitudes, elles ont une unité absolument incroyable dans la manière dont elles sont construites. Simplifier nos vies compliquées pour concentrer nos désirs et pour concentrer nos actions. Et je crois vraiment qu'il y a plus ici un appel à se désencombrer qu'un appel à s'isoler et à rester pur dans sa petite bulle. Il y a un petit exercice que je vous propose pour terminer cette béatitude-là, qui est un exercice qui est proposé par dans ce livre-là, et qui nous propose de le vivre dans notre corps, de vivre cette béatitude-là dans notre corps. Voilà ce qui est proposé. En fait, vous allez marcher dans une structure à quatre côtés. Ça peut être votre pâté de maison, ça peut être dans la forêt, tac-tac, vous faites les... Voilà, vous définissez à peu près un parcours. Alors, il n'y a pas besoin forcément que ce soit absolument les mêmes côtés, mais l'idée, c'est que vous allez marcher sur chacun de ces côtés-là. Et à chacun de ces marches, à chacun de ces temps-là, vous allez pouvoir méditer, réfléchir sur quatre dimensions. La première dimension, c'est comment je peux lâcher ce qui me préoccupe, ce qui m'inquiète. Comment je peux me dépréoccuper de moi ? Ah oui, il y avait la forêt. Donc sur la première, méditer sur comment est-ce que je peux me dépréoccuper de moi, comment est-ce que je peux lâcher ce qui me préoccupe. La deuxième, comment est-ce que je peux prendre la distance et me désencombrer du regard des autres. Parce que souvent, c'est quelque chose qui nous pèse dans nos vies. La troisième, c'est comment est-ce que je peux trouver mon identité dans l'amour de Dieu et pas dans le regard des autres. Et enfin, la dernière, c'est comment est-ce que je peux vivre l'amour du prochain ou du lointain aussi, puisqu'on sait que dans les défis notamment économiques et climatiques, ben, parfois ça se passe aussi à l'autre bout du monde. Comment est-ce que je peux vivre l'amour du prochain ? Voilà, une petite suggestion pour le vivre dans notre corps, comme ce que l'on a vu par rapport à ces trois béatitudes-là. Et enfin, on termine avec les deux dernières béatitudes. Est-ce que quelqu'un a celle-ci ? Merci. C'est la seule béatitude où on est invité à faire quelque chose. Christelle l'a dit, on est dans un état d'esprit. En principe, les béatitudes, c'est un état d'esprit. Et bien là, en fait, il s'agit de fabriquer. Le mot, c'est fabriquer la paix. Et en fait, il y a plein de situations dans lesquelles on peut être artisan de paix. Mais j'aimerais juste terminer par un petit témoignage. C'est un ami qui m'a raconté, dont j'ai entendu ce partage-là et ce témoignage-là. Et j'aimerais l'illustrer parce que je pense qu'en fait, l'action, ça ne peut pas être juste dans la théorie. Il faut raconter des tranches de vie. Cet ami, il est allé en stage dans un pays. C'est un pays qui est communiste, militarisé. Et il a fait un stage là-bas. Lui, il y était en tant qu'étranger avec une ONG internationale. Et ils étaient du coup sur leur base. Mais un jour, il a décidé de sortir de la base pour aller marcher dans la nature, parce qu'il aime bien faire ça. Et en fait, au détour d'un champ, il tombe nez à nez avec un militaire, un local. Parce qu'en fait, ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en fait, il marchait sur les terres d'un territoire militarisé, en fait. Et le militaire, il commence à pointer son arme vers lui en le menaçant. Et ben, mon ami, il ne parle pas la langue locale. En tout cas, à ce moment-là, il ne la parlait pas très très bien. Et en fait, le soldat, il commence à lui crier des instructions, des ordres. Et en fait, moins il comprend et plus l'autre se commence à hausser le ton et s'énerve en lui pointant le fusil. Et en fait, du coup, il l'emmène à la caserne où il est maintenu en détention pendant quelques heures, dans des conditions assez précaires et surtout avec beaucoup de violence et de menaces. Et en fait, c'est grâce à l'intervention du directeur de l'ONG qui lui vit sur place et qui parle très bien la langue, que finalement, au bout de quelques heures, on peut enfin, clarifier les choses et que du coup, mon ami est emmené à nouveau sur la base de l'ONG et bon, tout est bien qui se finit bien. Donc ils expliquent que c'est une erreur parce qu'en fait, ils l'ont pris pour un espion, en fait, voilà. Mais pour vous dire, en fait, cet ami, il a vraiment vécu ça comme vraiment une énorme frayeur. Et c'était tellement fort qu'en fait, quand il est rentré en France, il refusait même d'aller faire du laser game ou d'aller faire du paintball, en fait. Parce qu'il disait, en fait, toi, tu sais pas, quand tu as une arme pointée sur toi, ce que ça signifie. Et du coup, il ne pouvait plus pointer une arme sur quelqu'un d'autre, en fait. Et quelques jours plus tard, dans le cadre de sa mission, donc lui travaille pour les eaux, le service des eaux, et donc il travaille aussi dans le domaine de l'environnement. Et il est appelé pour une mission dans un village. Ils installent des systèmes de je crois que c'est des systèmes de latrines ou de purification d'eau dans un village voisin, et donc c'est le but de l'ONG. Et ça permet d'avoir des sanitaires adaptés, de lutter contre plein de maladies différentes. Et donc ils arrivent dans le village avec l'équipe. Et donc lui, il est chef d'équipe. Et tous les villageois sortent pour accueillir leurs bienfaiteurs qui vont les aider, qui vont, en tout cas, qui vont leur permettre d'avoir des meilleures installations à ce niveau-là. Et à ce moment-là, parmi la foule, donc en fait, il y avait l'équipe, il y avait un traducteur qui faisait le lien, et puis il y avait la foule en face. Et dans la foule, mon ami voit ce militaire-là. Et à ce moment-là, il y a plein de pensées qui se bousculent dans sa tête. Il se dit, mais en fait, j'ai l'occasion de me venger, là. Il m'a humilié, il m'a considéré comme un moins que rien. Bah, du coup, lui, il n'aura rien. Il n'aura rien du tout. Et en fait, quand il nous a raconté ça, en fait, c'était vraiment très fort. Après, il a pris un peu de recul, il a pris un peu de temps, et en fait, il a commencé à réfléchir, et dans son cœur, il a eu cette paix profonde, je crois qu'il vient aussi de la force des béatitudes et de la force de l'Esprit de Dieu qu'il a invité en fait à rendre le bien, à ne pas rendre le mal par le mal, mais à faire le bien à la place du mal. Et donc au bout d'un certain temps de discussion, ils se sont mis ensemble, il revient auprès du traducteur et il explique aux habitants ce qui va se passer. Il dit, ben, aujourd'hui on va installer plusieurs installations, on ne pourra pas les mettre chez tout le monde. On en a, je ne sais plus combien, ils en avaient 4 ou 5, un truc comme ça. Et on va commencer par lui. Et il montre le gars. Et quand on a réagi, quand il nous a raconté cette histoire-là, on s'est vraiment chamboulé, on s'est vraiment bouleversé. Et on s'est dit, mais franchement, mais qu'est-ce qui t'a fait agir ainsi? C'est juste complètement irréel, en fait. Et il a dit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait de moi un fabricant de paix. Voilà. Voilà une illustration, voilà une manière que ce que ça pouvait dire de fabriquer la paix. Il y en a de nombreux autres, hein. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on n'a pas besoin de se retrouver face à un militaire. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire de transformer les relations, de transformer la violence en bienveillance? Que le Seigneur nous inspire à faire partie de ces artisans de paix. Et je laisse la place à Christelle pour conclure cette prédication.
Et j'invite la personne qui a la dernière béatitude, la numéro 8, à la lire. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute ou qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, Élisée disait tout à l'heure que pour lui, la béatitude qui semblait le plus inatteignable, c'était celle des cœurs purs. Personnellement, s'il y en a une que j'aurais voulu zapper, ce serait celle-ci, cette dernière béatitude sur la persécution, qui semble, à première vue, peu réjouissante. Et pourtant, la boucle est bien bouclée, parce que la promesse pour ceux qui sont persécutés dans cette dernière béatitude, c'est au fait exactement la même que pour les pauvres en esprit. De la première, le royaume des cieux est à eux. Et c'est d'ailleurs la seule promesse qui est au présent et pas au futur. Vous qui entrez dans cet état d'esprit de pauvreté, nous dit Jésus, vous qui cheminez vers ce bonheur contre-culturel, ne vous étonnez pas de rencontrer des résistances. Je pense... Par exemple, à plusieurs personnes de mon entourage végétarienne qui m'ont dit que face à leur choix, au début, elles ont rencontré parfois des réactions négatives de leur entourage. Montrer par notre vie qu'un bonheur différent est possible, c'est être prophète. Et ça peut déranger et provoquer de petites persécutions dans notre quotidien à cause de moi. Nous dit Jésus. C'est à cause de Jésus, c'est grâce à Jésus que les béatitudes ne sont pas une liste d'obligations à remplir, mais un état d'esprit. Un état d'esprit que Jésus lui-même travaille patiemment en nous, alors qu'il nous transforme à son image. Jésus, l'homme des béatitudes. Humble de cœur, totalement désencombré de lui-même, qui pleure et porte tout le poids de nos larmes, doux, assoiffé de justice, compatissant, au cœur pur et artisan de paix, persécuté et cloué sur une croix par les hommes et pour les hommes. Jésus qui, par sa résurrection, ouvre en nous dès aujourd'hui les portes du royaume des cieux, avec la promesse de cette joie profonde au cœur même des difficultés de nos vies. Alors on vous invite maintenant, pour laisser encore cheminer en nous ces béatitudes, de conclure par un moment musical méditatif autour du refrain qu'on a chanté pendant la prière communautaire. Oui, Seigneur, viens ouvrir en nous les portes de ton royaume, de justice, de paix et de joie. Amen.
Le temps des annonces, est-ce que Gabriel, est-ce que tu veux bien venir ?